poussière d'étoiles.
Jeunesse, si tu savais, des témoins et aujourd'hui des paysans au Mexique.
Vive le diable !
Le cri terrifiant retentit dans le village, il est trop tard. Sa mère et sa sœur sont déjà partis au marché, il est trop tard, il ne reste qu'à fuir. Emiliano attrape son fusil, sort par l'issue secrète, creusée à l'arrière de la maison. Dans la grande rue, les soudards regroupent les vieillards, les enfants qui jouaient par là. Emiliano rampe dans la poussière, derrière les baraques des journaliers. Dans la grande rue, les hommes violent à la baïonnette les femmes du village, les vieilles, les jeunes, même les fillettes.
Celles-là ne seront plus bonitas, mignonnes.
Emiliano arme le fusil, s'élance, franchit l'espace découvert. Dans la grande rue, la brigade rit et s'apostrophe en sortant les chalumeaux du camion.
« Que votre foi vous consume, peones !»
Emiliano court vers la colline, les poumons lui brûlent, ses jambes fléchissent. Dans la grande rue, on arme les mitraillettes lourdes, on rassemble les survivants en une masse compacte, la plus compacte possible pour les faucher tous à la fois. Au bruit des dernières rafales, Emiliano atteint le couvert. Il sait qu'il n'a plus ni sœur ni mère. Il sait que les brigades infernales ne laissent rien ni personne derrière elles. Il sait leur diabolique cri de ralliement et il sait quel est le sien. Il marche depuis 3 ans déjà sous la banderole des guerrilleros.
Vive le Christ roi et la Vierge de Guadalupe!
Emiliano marche avec l'armée des Indiens, des mulâtres, des métis, des pauvres, avec ses milliers de paysans armés pour défendre leur foi. Emiliano et Cristeros. Cela fait 3 ans qu'il se bat. Cette guerre, dont il ignore qu'elle s'achève, Emiliano en connaît les morts et les ennemis. Calès, les soldats gouvernementaux, les brigades et les Américains. Ils ont fermé les églises, interdit le culte catholique. Il n'y a plus de messe au Mexique, mais il y a désormais le sacrifice, les cris, les larmes, les deuils des enfants du pays. Lorsqu'en 1925, le général Calès, président du Mexique, décide de lancer la lutte finale contre le catholicisme, le combat décisif entre les ténèbres et la lumière, comme il dit, c'est le début de la révolte. Calès promulgue un arsenal législatif qui transforme, avec le parti révolutionnaire institutionnel qui dirige le pays depuis un certain temps, transforme en délit le droit commun de la pratique du culte catholique. Les églises sont fermées. Les prêtres et les laïcs qui refusent d'adhérer aux associations cultuelles gouvernementales sont emprisonnés. La situation est semblable à celle de la France pendant la Révolution française où l'on a interdit tout le culte pour remplacer par un culte dépendant du gouvernement de la déesse raison. Ici, c'est l'armée aussi qui est envoyée dans de vastes opérations d'intimidation avant d'entamer une véritable persécution comme les colonnes infernales qui sont venues exterminer toute âme qui vive en Vendée parce qu'ils étaient restés fidèles à leur foi. Pendant la Révolution française. Ici, après avoir épuisé tous les recours, le 31 juillet 1926, l'épiscopat mexicain prononce la suspension totale du culte et demande au peuple de se mobiliser pour obtenir les conditions de son rétablissement. La mobilisation est immédiate. En janvier 1927, à l'appel de ses pasteurs, toute la région du centre-ouest se soulève massivement. Hommes, femmes et enfants quittent leur village et confluent vers la capitale, sans autres armes que leur bannière. Ils s'avancent comme en pèlerinage, certains d'obtenir par leurs prières et leur nombre le rétablissement du culte. Ils sont accueillis par l'armée et ses mitrailleuses. Cette effroyable boucherie donne le signal de l'insurrection générale. Des villageois prennent les machettes, les faux, les bâtons, tout comme les chouans et les vendéens qui se soulevaient en France pour leur foi. Et là, ils se muent en guerrilleros, soutenus par le petit peuple des campagnes et des villes. C'est une véritable armée populaire qui se lève. Au gouvernement, on se frotte les mains. Ce soulèvement spontané, sans stratégie, sans chef, sans argent, sans vivres et sans armes, entre parfaitement dans le plan gouvernemental d'éradication du catholicisme. Se désignant eux-mêmes comme cible, les activistes pourront être liquidés. La masse sera ensuite définitivement matée par la terreur et la foi, cet outrage intolérable à la raison, disparaîtra du Mexique. Tout sera fini avant 2 mois. Pronostique le président Calès. Contre toute attente, en moins de 2 mois, la guérilla inflige à l'armée régulière déroute sur déroute. On prend les armes des vaincus, on les retourne contre les gouvernementaux. Fort du soutien explicite du pape Pie XI, seule l'absence d'un commandement unifié empêcha les insurgés d'obtenir un véritable succès initial contre les forces fédérales dira un attaché militaire américain. Justement, le pouvoir, pour survivre, a besoin de l'appui des États-Unis. L'allié américain soutient les libéraux au pouvoir. L'argent, les armes ultramodernes, les automitrailleuses, les avions à flux. Dès 1926, Mgr Curley, archevêque primat de Baltimore, proteste avec véhémence. Les mitrailleuses qui ont ouvert le feu contre les fidèles de San Luis Potosi étaient des mitrailleuses nord-américaines. Les fusils qu'on a utilisés contre les femmes de Mexico provenaient de notre pays. C'est nous, par l'intermédiaire de notre gouvernement, qui armons les assassins professionnels de Calais. Nous qui les soutenons dans leur abominable plan qui veut aboutir à détruire jusqu'à l'idée de Dieu dans le cœur de millions d'enfants mexicains.
Assassins professionnels, le mot est lâché. Et de fait, conseillé par des attachés militaires américains, l'armée mexicaine met en œuvre une stratégie d'éradication. Premier acte, la déportation systématique des populations. Les routes du pays s'en trouvent embouteillées. On voit partout des charrettes pleines de familles. La majorité n'a pas une miette de pain. Les enfants pleurent de faim, de fatigue et de froid. Au bout du voyage, les populations déportées sont parquées dans des enclos à bétail, exposées aux intempéries. Cet entassement produit la contagion et la mort d'une multitude. Deuxième acte, la terre brûlée. Une fois les populations déportées, les villages et les cultures sont détruits. Le bétail vendu ou abattu. Troisième acte, la terreur. On ne fait aucun prisonnier. Tout combattant, ou supposé tel, s'il est capturé ou s'il se rend, est torturé puis exécuté. Les hôpitaux sont transformés pour pratiquer des opérations chirurgicales au sadisme raffiné. Cela ne suffit pas? Le gouvernement décide de créer les brigades infernales, chargées de répandre la terreur absolue dans la population non combattante, mais présumée à juste titre complice. Il ne s'agit plus alors de déporter, mais d'exterminer sur place. Pourtant, rien n'y fait. La révolte continue de s'étendre et de gagner du terrain. Les étudiants rallient la rébellion. Les filles et les jeunes femmes créent les célèbres bébés Brigadas Bonitas, brigades mignonnes, qui s'illustreront sur tous les fronts. Et voici qu'en juillet 1927, le général Gorosieta de l'armée gouvernementale, connu pour être athée et franc-maçon, se convertit, passe au peuple et devient le général en chef des Cristeros. Sous son commandement, la guérilla acquiert l'organisation efficace qui lui manquait, au point qu'un attaché militaire américain s'alarme, la situation empire lentement et sûrement, malgré les actions hystériques et inefficaces des gouvernementaux. Dans les rangs mexicains, on enregistre cette année-là plus de 20 000 désertions. Et en juin 1928, c'est une véritable armée de 25 000 hommes, baptisée Guardia Nacional, que Gorosieta s'apprête à conduire vers une victoire définitive, différée de mois en mois, faute de munitions. Le gouvernement américain sait qu'il n'a plus d'autre choix. Il faut que les révolutionnaires francs-maçons qui sont au gouvernement et les évêques parviennent à un accord avant que le gouvernement ne soit renversé. Washington met tout son poids, tous ses dollars dans la balance. On discute. À l'émissaire qui lui apprend ses tractations, le général Gorosieta dira « Ils nous vendent, mon petit Manuelito, ils nous vendent ». L'église institutionnelle locale et la curie romaine recherchent depuis le début de l'insurrection un accommodement diplomatique avec comme intermédiaire l'ambassadeur américain Morrow. L'accord est finalement signé le 21 juin 1929. Il se révèle outrageant pour les Cristeros morts et pour les survivants. La loi antireligieuse n'étant rien modifiée, seule une partie de son application est provisoirement suspendue. Le seul avantage obtenu est que les évêques puissent jouir à nouveau de leurs palais épiscopaux. Le Vatican donne inexplicablement son agrément à la condition que soit accordée une amnistie générale pour tous les combattants. Le 22 juin, les évêques mexicains décrètent officiellement la reprise du culte. À cette annonce, Delgado, général en chef depuis la mort au combat de Gorosieta, envoie son dernier ordre du jour à tous les Cristeros. Sa Sainteté le Pape, par la voix de son Excellence Monseigneur le délégué apostolique, et pour des raisons que nous ne comprenons pas, mais auxquelles, comme catholiques, nous nous soumettons, a ordonné de rétablir le culte sans abrogation des lois antireligieuses. De fait, camarades, notre situation se trouve changée. Nous devons nous soumettre au décret de la Providence. La Guarda Nacional est donc dissoute, non vaincue par ses ennemis, mais bien abandonnée par ceux qui les premiers auraient dû recueillir le fruit de ses précieux sacrifices. Aussitôt, l'armée chrétienne organise sa dispersion après avoir, dans un ordre parfait, livré ses chevaux et ses armes aux représentants du gouvernement. Les Cristeros rentrent alors chez eux, mais ce n'est pas la paix des braves qu'ils y trouvent, c'est la boucherie. Désarmés, on peut enfin les égorger tranquillement. D'abord, tous les chefs qui s'étaient rendus sont exécutés. Puis, et ce jusqu'en 1941, les miliciens du Parti révolutionnaire institutionnel s'appliquent à rechercher et à éliminer par milliers et milliers les braves qui avaient servi sous l'étendard du Christ-Roi, les Cristeros, le sobriquet. Il ne se trouve que 3 voix dans la hiérarchie mexicaine pour protester contre le massacre. Et encore, ceux qui s'émeuvent sont-ils immédiatement relevés de leur charge épiscopale. Les évêques prononcent servilement la dissolution de toutes les associations de laïcs mexicains que le gouvernement désigne à leur attention. Quelques prélats iront jusqu'à excommunier les prêtres qui ont servi comme aumôniers des combattants, avant de s'apercevoir qu'après s'être rendus, ces prêtres avaient été fusillés, pendus ou écarri vif. Autant de crimes contre l'humanité qu'avaient ainsi perpétré ces révolutionnaires mexicains qui depuis pendant des dizaines et des dizaines d'années étaient au pouvoir. Les responsables de l'épiscopat expliquent qu'ils ont tout accepté pour mettre fin aux souffrances de tous. Le pape Pie XI lui-même tente bien par une encyclique en 1932 de justifier l'assentiment qu'il a donné à l'accord qui livrait le peuple mexicain pour, dit-il, ne pas laisser échapper cette occasion qui paraissait offrir une possibilité de reconnaître les droits de la hiérarchie. En privé, cependant, Pie XI ne peut maîtriser ses larmes dès que l'on invoque devant lui le sort des Cristeros. Et quand il apprendra que la hiérarchie mexicaine excommunie les derniers résistants qui désespérés refusent de se rendre, il n'y tiendra plus. Et le 28 mars 1937, dans une lettre à l'épiscopat mexicain, il justifiera et exaltera la geste des Cristeros. Quand le pouvoir se dresse contre la justice et la vérité, jusqu'à détruire les fondements de toute autorité, on ne voit pas comment on pourrait condamner les citoyens qui s'unissent pour défendre la nation et se défendre eux-mêmes contre ceux qui programment étatiquement leur malheur. Le 25 septembre 1988, Jean-Paul II a béatifié Miguel Agustín Pro, jésuite mexicain, et aumônier des Cristeros, arrêté et fusillé en 1927. Jean-Paul II a aussi choisi le Mexique comme une des premières destinations après son élection en 1978 pour rendre hommage à cette Église et à ses chrétiens victimes des crimes contre l'humanité et d'une des pires persécutions que le monde ait connues au XXe siècle.